confiné puis déconfiné. Sous couvre-feu, 30% de mi-jauge, jauge pleine. Vivre masqué pour vivre heureux. Être négatif, faire barrière, éviter la quarantaine, distanciation sociale, vivre en distanciel, télétravail, téléachat, apéro Skype, hydroalcoolisé quotidiennement, testé, piqué, vacciné, étiqueté, drôle de vie, drôle de drame.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Depuis un an et demi, où que l'on vive, le Covid a tout bousculé dans notre vie quotidienne, dans notre corps, dans notre psychologie, notre rapport au monde, jusque dans la langue. Bernard Cerchiglini, éminent linguiste, conseiller scientifique du dictionnaire Le Larousse, a donc troqué son costume de prof pour endosser la blouse blanche des médecins. Bonjour docteur.
Bonjour Pascal Paradou.
Comment va notre patient, la langue française, en cette période où on a compté les morts, puis les vaccinés? Et en tout cas les malades.
Eh bien, paradoxalement, nous pouvons dire que la langue française va très bien. Elle a fait preuve d'une excellente santé pendant cette pandémie. Elle a su réagir, nommer, créer, faire évoluer les mots et nous donner tous les moyens de dire la pandémie et de dire la conduite collective à tenir face à la pandémie.
Alors, vous venez de publier les chroniques d'une langue française en résilience, où vous faites ce constat justement assez positif. La pandémie a prouvé la bonne santé de la langue française. Est-ce que cela vous a surpris ?
Oui. Oui, parce que quand la pandémie a commencé, je me suis intéressé au vocabulaire, forcément, par goût et par profession. Et je sentais que la langue allait se médicaliser à outrance, et que donc, par exemple, des anglicismes nombreux dans la langue médicale allaient passer dans la langue courante. J'ai donc été attentif, et premier étonnement, assez peu d'anglicismes. Et donc, comment dit-on ? Eh bien, on dit en français. Et j'ai vu la création de termes. Un exemple, quand le Petit Larousse de 2020 est publié, il portait la millésime 2021, beaucoup de journalistes, dont vous n'étiez pas, Pascal Paradou, sont étonnés que déconfinement ne figurât pas dans le dictionnaire. Et j'ai dû dire aux journalistes que ce mot était totalement récent. Il avait un mois, deux mois, et donc le dictionnaire était sous presse. C'est-à-dire qu'on a créé rapidement, en quelques semaines, tout un vocabulaire à partir de confinement, déconfinement, les verbes confiner, déconfiner, puis redéconfiner. Tout un mécanisme, un Lego morphologique s'est déployé sous nos yeux, dont nous avons dû tenir compte pour l'édition de l'année suivante.
Mais ce sont quelques mots ou c'est un bouleversement vraiment de la langue à la hauteur de la pandémie ?
C'est un bouleversement à la hauteur de la pandémie. Nous savons, nous, qu'en période de crise, la langue se renouvelle profondément et rapidement. Un exemple, pendant la révolution de 1789, tout le vocabulaire politique et social a bougé. Nous attendions un tel bouleversement, mais pas sur tous les plans. Regardez, tous les aspects bien connus de la langue ont été touchés. Par exemple, des mots anciens ont repris de la vigueur. Le mot écouvillon dormait dans le Petit Larousse depuis longtemps. Il avait été quelque peu réveillé par des médecins qui utilisaient cette petite brosse pour les prélèvements. Mais tout le monde a parlé d'écouvillon à propos du PCR. C'est un mot qui, au Moyen-Âge, désignait le balai dont on nettoyait les fours. Il est devenu courant. De même, j'ai entendu parler de lazaret. Ou bien des objets disparus, comme l'hygiaphone, parlé dans l'hygiaphone, était encore dans le Petit Larousse, mais il dormait paisiblement du sommeil des objets oubliés. Il est revenu. Alors, ensuite, changement de sens sous nos yeux, pardon.
Non, allez-y, changement de sens.
Exemple, le couvre-feu. Le couvre-feu, c'est un terme qui date du Moyen-Âge. On en voit l'étymologie. À l'époque, il fallait mettre les braises. Les maisons étaient en bois et craignaient l'incendie. Il fallait mettre les braises dans un pot dont le couvercle était vissé, un couvre-feu. Et donc, c'était l'ordre de pratiquer cette opération. Puis, l'ordre d'être attentif la nuit. Et ensuite, vers le XVIIe siècle, le couvre-feu est devenu, ce que nous avons connu, vous et moi, une opération militaire. Le couvre-feu, c'est l'interdiction de sortir de nuit dans une ville occupée ou surveillée par la troupe. Sous nos yeux, couvre-feu est devenu une opération non plus militaire de sécurité répressive, mais une opération collective de protection. Couvre-feu sanitaire et couvre-feu tout court. Il a fallu changer l'article du dictionnaire.
Bernard Sarquilini, nous allons faire un diagnostic plus précis de cette résilience de la langue française. Mais il y a un grand débat que nous devons trancher à cette heure-ci. Et je me rangerai à votre avis. On dit le ou la Covid, parce que malgré la recommandation de l'Académie française, pour moi, la chose n'est pas claire.
En effet, l'Académie française a raison de dire la Covid, car il s'agit d'un acronyme traduit de l'anglais et dont la tête nominale est disease en anglais, qui se traduit aisément par maladie. C'est donc une maladie, on dit la Covid. Et d'ailleurs, les Québécois qui ont l'habitude d'adapter des expressions anglaises disent la Covid.
Mais nous, on a dit longtemps le Covid.
Alors, on a dit le Covid, sans doute par analogie sur le coronavirus. C'est le virus qui donne la maladie et donc par métonymie, on désigne la maladie par le masculin. Actuellement, je pense que le masculin l'emporte. Nous avons fait rentrer Covid-19 dans le Petit Larousse en mettant féminin en tête, parce que l'Académie a sur le fond raison, puis masculin, car l'usage est masculin. Je crains que l'usage masculin l'emporte.
Mais vous dites quoi, vous ?
Alors, moi, je dis comme le président de la République, qui, dans ses discours, dit oui, ça va vous étonner, le président de la République française dit dans les discours une fois là, une fois le. C'est ce qu'on appelle le « en même temps macronien ».
Il en faut pour tout le monde, surtout pendant la campagne électorale.
N'est-ce pas ?
Alors, pour ausculter la langue française, vous êtes unique, Bernard Sarquilini, mais pour mesurer la diffusion de la culture francophone, il faut passer et penser parfois traduction, et donc aller ailleurs. C'est notre chronique hebdo. Bonjour Stéphane Chouin.
Oui, bonjour.
Vous êtes attaché culturel en Argentine et c'est à Buenos Aires qu'a été lancé en 2019 le programme Tintas Frescas, dont l'objectif était de soutenir la traduction et l'édition de textes de théâtre contemporain français. Ça a donné quoi ?
Ben écoutez, c'est tout à fait ça. Alors je rajouterais que ça concerne aussi la scène francophone, grâce à un autre programme que pilote Arsena et qui complète en fait le programme Tintas Frescas, qui a abouti aujourd'hui à la traduction d'une trentaine d'œuvres de 15 auteurs. Donc on a parmi les auteurs donc jeunes, Baptiste Amann, dont la trilogie Des territoires a été jouée avec succès cet été en Avignon.
Donc 31 textes, une quinzaine d'auteurs. On peut aussi citer l'haïtien Guy Régis Junior ou Alexandra Badea ou David Jesselson. Des auteurs vraiment très jeunes, vous l'avez dit. Ils ont tous moins de 50 ans. C'est pour être au plus près de la création française. Vous voulez proposer le plus neuf de la création française aux Argentins ?
Ben en fait, l'idée, c'est de faire connaître les nouvelles écritures françaises et francophones en Argentine, mais également dans 8 autres pays d'Amérique latine, que sont le Chili, l'Uruguay, le Paraguay, la Bolivie, le Pérou, le Venezuela, la Colombie et l'Équateur, et de favoriser des coopérations artistiques entre des équipes de créateurs argentins, équatoriens, boliviens, enfin qui sont issus des 9 pays que je coordonne, et donc ces textes.
Il y a donc en effet une suite, parce qu'il y a eu les traductions et maintenant il y a les projets de production et de mise en scène. Et il y a d'ailleurs un appel à projet en ce moment même.
Alors absolument. Donc l'idée, c'est de proposer donc à des équipes artistiques des 9 pays la possibilité de valoriser les textes qui sont traduits et édités dans le cadre du programme Tintas Frescas. Et donc en fait, on donne carte blanche à des équipes artistiques pour sélectionner 3 projets parmi les 18 projets qui auront été présélectionnés par les 9 pays.
Donc c'est l'assurance de voir dans les 3 ans à venir des pièces d'auteurs francophones. Les Argentins aiment bien le théâtre, non ?
Alors en Argentine, en effet, il y a une scène théâtrale très riche, mais il y a également une scène pour les arts visuels très riche, donc qui est constituée par des institutions et des équipes indépendantes. Et il y a une très très forte appétence en Argentine pour la création artistique française en particulier. Et donc ce programme est très très bien reçu par les scènes institutionnelles, conventionnées et par les scènes indépendantes. Sachant que ce programme, Tintas Frescas, en fait, il s'ajoute à d'autres initiatives tout à fait importantes et intéressantes pour le théâtre et plus largement pour le spectacle vivant, parce que, par exemple, il est question qu'en 2022, on crée un festival d'Avignon virtuel, donc en Argentine, mais dans les 8 autres pays que je coordonne. Donc tout ça, en effet, témoigne d'un très très fort intérêt des équipes argentines pour la scène artistique française.
Merci Stéphane Chouin, et on suivra donc ce festival d'Avignon virtuel et les Sud-Américains, et bravo pour ce programme de Tintas Frescas, qui veut dire, je crois, « encre fraîche ». Hubert Lenoir sur RFI, dimanche soir, c'est le titre de ce jeune musicien québécois qui sort son 2e album intitulé Pictura des Ipsés. Alors Bernard Cerchiglini, si je ne me trompe pas, c'est pas très francophone mais plutôt latin.
Oui, le portrait de lui-même.
Donc c'est un selfie en fait.
Oui, autoportrait.
Autoportrait.
Égoportrait, dit-on au Québec.
Bernard Cerchiglini, votre livre chronique d'une langue française en résilience aurait pu s'appeler Parlez-vous Covid, tant vous décryptez l'influence de la pandémie sur notre usage de la langue. Et ce qui m'a le plus amusé, en effet, c'est ce qu'on racontait tout à l'heure dans la première partie de l'émission, c'est la résurgence de très vieux mots comme écouvillon, mais aussi comme quarantaine. Quarantaine, pour moi, c'est la littérature de pirates, les films de pirates, c'est pas du tout mon quotidien.
Mais bien sûr, quarantaine au départ, ce sont les 40 jours, d'abord dans la religion chrétienne avant le carême, et ensuite les 40 jours où on doit rester au port parce qu'on débarque d'un bateau venant d'un pays sans doute infecté. Et puis, quarantaine a désigné toute durée de surveillance. À tel point que la langue a joué avec haine, et pendant la pandémie, nous avons vu apparaître la quatorzaine. qui est venu se placer à côté de la quinzaine qui désigne une durée. La quatorzaine, c'est les deux semaines de surveillance pour voir si on n'est pas infecté. Et tout récemment, nous avons vu apparaître la septaine. C'est-à-dire qu'il y a une production de la langue en elle-même, pour elle-même, pour désigner des périodes d'auto-surveillance.
Mais est-ce que vous avez fait la traçabilité de la résurgence de ces vieux mots ? Est-ce que c'est arrivé par les médecins ? Est-ce que c'est arrivé par les médias ? Est-ce que c'est arrivé par le gouvernement qui a pris un certain nombre de mesures législatives ? Comment arrive le mot écouvillon ou quarantaine, par exemple ?
Écouvillon, c'est par les médecins qui l'avaient utilisé pour désigner une petite brosse et puis elle est passée dans l'usage courant. Pour couvre-feu, c'est plutôt le gouvernement qui a pris ce mot, il a eu raison, pour désigner le confinement, en quelque sorte. Mais pour le reste, c'est un peu tout le monde. Qui a inventé quatorzaine ? On ne le sait pas. Qui a inventé septaine ? C'est-à-dire que la langue française a été extrêmement dynamique face à la pandémie, dans la création de termes techniques, mais dans l'aspect ludique également. Dans le livre, je cite tous les mots formés sur apéro. Pendant le confinement, il était important de continuer à prendre l'apéro. Dieu sait qu'en France, c'est un rite de la fin de journée. On le prenait à distance, l'apéro. Eh bien, on a inventé le cyberapéro, le WhatsAppéro que j'adore, ainsi de suite. Une trentaine de mots formés sur apéro.
Et puis, on a inventé aussi beaucoup de mots avec télé. Télétravail, qui suppose aussi les visios, les distanciels, si on reste dans l'univers du boulot. Le docteur S linguistique que vous êtes en pense quoi ?
Beaucoup de bien. J'ai toujours aimé la préfixation, qui permet, peut-être parce que je jouais au Lego quand j'étais jeune, et donc c'est un Lego, on met deux Lego et on fait un nouveau mot. Et regardez, télé était très productif. Télétravail, télévision, télévidéo, télétravailler, ainsi de suite. Mais à côté de télé, on a toute la série en corona. Les coronapistes de la mairie de Paris ont eu une telle fréquence que nous avons fait rentrer le terme dans le Petit Larousse. Et puis tout à l'heure, on parlait de cyber. C'est-à-dire qu'on a créé des mots d'une façon assez aisée grâce aux préfixes et aux suffixes. On oublie. Nous sommes tellement impressionnés par la souplesse et la créativité de la langue anglaise, on oublie que le français est tout aussi capable de créer des mots. Nous avons une très bonne morphologie préfixale et suffixale.
Bernard Cerchiglini, on allume le poste ou la télé. Voilà ce qu'on écoute.
Aujourd'hui, notre planning, vous le connaissez, c'est 10 millions de primo-vaccinations à la mi-avril. Et donc le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination, vous pouvez les appeler vaccinodromes ou mégacentres, quel que soit le nom.
Grâce à l'application Balai Masque et sa reconnaissance faciale augmentée, vous apparaissez maintenant tel que vous êtes sous le masque.
Dans tout le pays, il est demandé un respect rigoureux des gestes barrières.
Hier à Bruxelles, une soixantaine de personnes qui manifestaient contre les mesures Covid ont été arrêtés.
L'objectif affiché est de voir chuter de manière drastique le taux d'incidence.
Alors, je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid.
Le parler quotidien en temps de Covid en France et ailleurs dans les médias, peu d'anglicisme, cela confirme ce que vous dites.
Très peu. Vous savez, en linguistique, on travaille sur des observations, on observe des apparitions. Mais on travaille peu sur des disparitions ou des absences. Je m'attendais à beaucoup d'anglicismes. Nous en avons trouvé assez peu. Cluster, qui s'utilise moins. Tracking, qui est devenu traçabilité. Même distanciation sociale, qui est un calque regrettable, car social a un sens de classe en France. Distanciation sociale a été remplacée très vite par la langue, par distanciation physique. Très peu d'anglicismes et des mots français, on vient entendre taux d'incidence. Vaccinodrome, mais c'est très bien, vaccinodrome. Voilà un suffixe d'origine grecque que l'on a dans hippodrome, ainsi de suite. Vélodrome, vaccinodrome. Tout ça est mieux qu'emprunter un mot anglais obscur, opaque, incompréhensible.
Donc, rien de mieux qu'une bonne épidémie pour remettre le français sur ses rails.
Je n'irai pas jusque-là, cher Pascal Paradou.
Antivax, quand même. On les entend beaucoup, les antivax, en ce moment, parce qu'ils sont le samedi dans les rues des grandes villes. Ça, c'est un anglicisme.
C'est un vrai anglicisme. Et il est fréquent, à un point tel que nous l'avons fait rentrer dans le Petit Larousse depuis 2 ans déjà. Il existait déjà. Mais c'est vrai qu'il a pris une importance rare. Antivax, c'est peut-être une troncation appellation de, un peu bizarre de vaccin. En tous les cas, pour moi, c'est un mot anglais. Et c'est un mot anglais que, pardonnez-moi, mais que la presse a tort d'utiliser, comme elle a tort aussi de reprendre cette graphie gouvernementale que je déteste, qui est le pass sanitaire écrit PA2S. Pourquoi le gouvernement français nous impose-t-il un anglicisme, une graphie angliciste, alors que nous avons le mot pass qui désigne une clé ouvrant toutes les serrures depuis plusieurs siècles? Un pass sanitaire PA2SE se comprend fort bien.
Alors pourquoi justement?
Parce que les décideurs ont dans un coin de leur tête l'idée que l'anglais est moderne, efficace, technique. Alors que la langue a montré que ce qui est moderne, c'est la langue française commune, partagée par tous. Si nous avons si bien réagi ensemble à la pandémie, c'est parce que nous l'avons fait en français. Nous avons partagé une compréhension, un diagnostic, des protocoles et des procédures à respecter. Plus que jamais, le français a été notre objet commun.
Donc beaucoup de néologismes, beaucoup de syntagmes aussi. Là, je fais un peu le savant, ce n'est pas un mot que j'utilise tous les jours, mais grâce à vous, je peux le prononcer au micro. La syntagme, c'est immunité collective, geste barrière. Là aussi, ce sont des inventions, dites-vous, Bernard Serkin.
Ce sont des inventions, les mots sont tout récents. Geste barrière est même une invention française. Il est bien possible que barrier gesture soit un emprunt de l'anglais au français. Flotte, petit drapeau. Mais toute la série, immunité collective, distanciation physique, tout cela, c'est de la bonne formation française avec un nom, une épithète, ou un nom, une préposition et un nom. On sait fabriquer les mots en français. Souvent, on n'ose pas et on va emprunter un mot anglais opaque. C'est du snobisme, c'est de la sottise, cela oublie que la langue en France est notre objet commun, ce qui fait que nous faisons société. Et nous nous en rendons compte pendant la pandémie. La pandémie a rappelé le rôle fondamental de la langue.
Alors, ni néologisme, ni syntagme, ni mot valise, il y a un mot qui est très présent parce que notre quotidien est encore fait de cela, c'est le masque. Le masque que l'on met dans les transports en commun ou dans les commerces, qui est complètement déformé par rapport à ce qu'il était. Et d'habitude, c'est le masque de carnaval.
Mais pas oui, c'est une belle histoire, parce que c'est une histoire vénitienne et toutes les histoires vénitiennes sont belles. Mascara, c'est ce que l'on portait à Venise pour se dissimuler. Et le masque a toujours eu un sens de dissimulation. Au 19e siècle, il a pris, dans certains cas, un sens de protection, le masque d'escrimeur, le masque d'apiculteur. Mais c'était secondaire. Et en tous les cas, le verbe « se masquer » a toujours eu un sens de dissimulation. Et sous nos yeux, « masque » est devenu principalement de la protection. Et le verbe a suivi. Si vous dites aux enfants « n'oubliez pas de vous masquer pour aller à l'école, les enfants », il y a quelques années, cela aurait été une phrase de carnaval. Masquez-vous, les enfants.
Alors
maintenant,
que là, c'est une
protéger.
Phrase quotidienne.
C'est-à-dire qu'un mot aussi fréquent que le substantif masque et le verbe se masquer ont changé de sens sous nos yeux. Et les dictionnaires ont suivi.
Cela dit, Bernard Serkiglini, le mot masque n'est pas forcément le mot le plus partagé en francophonie. Cécile Lavolo a interrogé Yap Boumdeu, qui est biologiste et directeur du Centre Épicentre Afrique, le centre de recherche de l'ONG Médecins Sans Frontières. Et il est basé à Yaoundé, au Cameroun. Écoutez ce qu'il dit.
Depuis la survenue de la COVID au Cameroun, les cache-nez sont apparus plutôt que les masques. Donc dans tout ce qui est message du ministère, on va utiliser le terme masque, mais au niveau de la population, on est plutôt dans l'usage du mot cache-nez. Pour qualifier la maladie de la COVID ou du COVID, la maladie des riches est rentrée dans le jargon comme définissant cette maladie. Ensuite, le Cameroun a la particularité d'être bilingue, donc on parle beaucoup pidgin, donc on utilise une nouvelle expression qui s'appelle « sofnjon », qui veut dire « percé par une épine », qui transmet un peu ou bien qui traduit ce virus qui nous pique.
Des mots du Covid au Cameroun, Bernard Cerchiglini, dans son inventivité quand même, le français ou le mot adapté du français ne dit pas exactement ce qu'il est, parce que le virus ne pique pas.
Non, mais vive le français mondial et sa créativité. C'est proustien pour moi. Toute mon enfance à Lyon, j'ai parlé de cache-nez, pour désigner une écharpe qui cache tout le bas du visage. C'est merveilleux, cache-nez. Pour masque.
C'est mais très ça, c'est le masque.
C'est le masque.
Parce que c'est vrai qu'en Afrique, on connaît peu le cache-nez, on n'en a pas besoin. Mais il fait rarement 0 ou moins 10.
Mais c'est une belle création. Et pour l'autre, c'est magnifique aussi. Il faut être attentif à ce français mondial, à sa variété, à sa richesse.
Mais alors, vous qui faites partie du conseil scientifique du dictionnaire des francophones, qui est donc cette plateforme participative qui a été créée il y a à peine un an, moins d'un an, pour trouver des équivalences dans le monde francophone, est-ce que vous avez constaté d'autres enrichissements? Parce que j'ai vérifié, le mot cache-nez n'y est pas dans le dictionnaire des francophones.
Eh bien, il y sera ce soir, puisque
de l'importance
c'est un dictionnaire participatif, je vais le faire rentrer ce soir même. Et j'en profite pour dire aux auditeurs, prenez en main ce dictionnaire et enrichissez-le. Chacun peut rentrer un mot, une expression et bientôt la prononciation. Chacun peut prononcer le mot tel qu'il l'entend et tel qu'il désire. C'est un grand dictionnaire de la francophonie.
Donc on va voir si c'est vous qui mettez le mot cache-nez pour masque ou si vous allez être devancé par un auditeur de vive voix qui va se précipiter tout de suite sur le DDE pour apporter sa contribution. Alors dans votre livre, vous signalez plein d'autres inventions assez hilarantes, notamment que l'on doit à Loulipo, comme la... Ben alors ça, on est dans l'ordre de l'amusement, ou vous pensez que ça peut rentrer dans les mœurs? La cobidité.
Oui. Non, c'est le... Soyons ouverts à la concurrence. Le dictionnaire Le Robert a demandé à Loulipo d'inventer des mots en période de pandémie. Et naturellement, mes amis de Loulipo sont beaucoup amusés à en inventer.
Quelques-uns, voilà. Dont...
Moi, j'avais inventé, vous savez, quand vous rentrez chez vous, vous déposez dans un petit panier la clé dont vous déposez le gel hydroalcoolique et votre masque. Et moi, j'appelle ça le Covid-poche.
C'est pas mal.
Merci beaucoup.
Mais je veux quand même préciser ce qu'est la cobidité, parce que c'est pas évident, c'est pas tout à fait transparent. Cobidité, embonpoint simultané de plusieurs personnes vivant des situations de confinement. Autrement dit, on est confiné, on mange beaucoup, on prend du bide.
On prend du bide.
Pour être plus explicite.
À l'époque, on se demandait quand on serait vacciné, et donc nous avons créé le vaccin Glinglin.
C'est joli aussi. J'aime beaucoup la coviduité. Qui est cet état, je lis, état d'affliction des personnes confinées qui souffrent de ne pouvoir se plaindre ni de leurs conjoints, ni de leurs enfants par absence ou défaut de l'un ou l'autre. C'est triste, mais c'est une jolie invention. Dans le temps, en espérant que la pandémie soit moins vive, voire qu'elle soit endiguée, quelle place ferez-vous à tous ces mots dans les prochaines éditions du Larousse, Bernard Cerchiglini? Puisque finalement, c'est aussi des mots à la mode.
Alors, la prochaine édition est à l'étude. Dès que nous publions un dictionnaire, nous commençons la prochaine édition qui paraîtra en mai. Eh bien, nous faisons un bilan de la fréquence et de la stabilité de ces termes. Pour l'instant, ils sont stables et ils ont donc tous les traits pour être maintenus dans le dictionnaire. Confinement, redéconfinement, etc. sont des mots de la langue.
Mais dans 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans peut-être, le mot confinement aura peut-être perdu de son sens, de sa valeur.
Nous faisons un nettoyage complet tous les 10 ans. Donc rendez-vous dans quelques années. Mais je pense que confinement, d'abord, confinement. N'oubliez pas, mon ami Alain Rey disait « un mot n'est jamais mort, il dort profondément ». Je citais Alain plus haut en parlant de sommeil. Confinement est dans la littérature. Et dans la presse, il est sur Internet. Dans 10 ans, on aura accès à des textes qui parlent de confinement. Il faudra maintenir le terme.
Et il y en aura plein de nouveaux.
Mais plein de nouveaux.
Parce que la langue s'adapte et que les pandémies ne sont peut-être pas
malheureusement,
terminées.
Non.
Merci beaucoup Bernard Cerchiglini. Vos chroniques d'une langue française en résilience sont éditées chez Larousse. De vive voix, Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin. À demain.